Ce matin, bien, on continue dans notre série. Et ce matin, on va toucher le chapitre 2. Et c'est tellement un chapitre important et charnière dans notre série que on va le regarder. Je me trouvais trop précipité à faire tout ça ce matin. C'était comme, on va avaler trop de choses en même temps. Puis quand tu avales trop de choses en même temps, qu'est-ce qui arrive? Tu fais une indigestion. Alors, on va faire ça cette semaine, la semaine prochaine, prendre le temps de digérer ici les leçons de l'auteur qu'il veut nous enseigner sur le livre. Si vous comprenez le chapitre 1 et 2 de Juges, vous allez pouvoir lire le reste du chapitre avec les lunettes qu'il veut que vous ayez pour comprendre pourquoi il a mis les histoires qui sont là après. Si vous ne comprenez pas le chapitre 1 et 2, vous allez lire les histoires dans les livres des Juges et vous allez être confus. Vous allez même, parce que vous avez besoin d'aide, tout comme moi, vous pouvez être choqué même sur les bêtises humaines qu'on lit dans le livre. Mais si vous avez compris pourquoi il nous raconte ces histoires-là, là, vous allez sortir de votre déchoquage, comme moi, là. Puis là, vous allez pouvoir regarder c'était quoi les leçons et comprendre les liens avec ce que je vis au contemporain. Parce que c'est ça que l'auteur veut nous amener à comprendre. Et chapitre 2 est vraiment charnière. Et la raison pourquoi j'ai donné le titre « Transmettre la foi à la dans une génération chaotique », c'est lié à l'enseignement particulier du chapitre 2, qui est vraiment charnière. Donc, on va le regarder en deux étapes. On a terminé l'introduction la semaine dernière. Si vous l'avez manqué, vous pouvez aller sur le site de l'Église. Et on a regardé le premier défi que l'auteur soulève à cette génération qui rentre dans le pays. Ce défi qu'ils ont floppé royalement. Ils n'ont pas pris possession des villes qu'ils avaient été appelés à prendre possession. On va comprendre pourquoi aujourd'hui. On l'a juste constaté l'échec la semaine dernière du défi de prendre possession et l'expression de foi que ça exprimait, qui manquait évidemment. Et cette semaine, on va comprendre pourquoi ça s'est passé et que tout ça, c'était aussi orchestré par Dieu. Ah, ouais. Dieu a orchestré des choses à travers des bêtises humaines. Oui, effectivement. Et on va comprendre ça bouchée par bouchée. Évidemment, c'est ce qui va nous aider à comprendre le reste du livre. Donc, ce matin, on regarde le défi de transmettre à la prochaine génération. Donc, on a vu le défi de la première génération. Cette semaine, on regarde le défi de transmettre à la prochaine génération, partie 1, partie 2, la semaine prochaine. Je vous rappelle ici la structure du livre qui est hyper simple, et je vais vous le mettre régulièrement, parce que si vous avez regardé une map d'une ville, après ça, à répétition, vous allez vous souvenir de comment vous promenez dans la ville. Et c'est la même chose avec un parcours à travers un livre. On a besoin de des titres de chapitres pour s'orienter et comprendre la structure du livre. Et elle est simple, trois parties. L'introduction, où ce que l'auteur nous montre des leçons importantes pour comprendre le livre. Après ça, il nous donne des histoires, un derrière l'autre. 6-7 cycles des juges qui sont là. Mais il y a des juges qu'on parle pas ben. Et il y a des juges qu'on parle beaucoup. J'ai mentionné seulement les plus célèbres de ces juges. Non, les moindres. Pourtant, il y en a d'autres qui sont juste plus discrets. Mais les mêmes cycles, le même pattern qui se reproduit. Et là, à la fin, il met une grosse annexe, une grosse conclusion pour montrer comment, en bon québécois, c'était le bordel en Israël à cette époque-là. Et je ne mâche pas mes mots, désolé pour ceux que ça choque. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Et vous allez voir, il y a des choses que vous allez trouver difficiles de nommer par leur nom dans ce livre-là. Je vous l'assure, il y en a que leurs oreilles vont friser. Pas les cheveux, les oreilles, imaginez. Alors, c'est parce que ça va être corsé un peu parfois. Mais vous avez là ici les grandes lignes. Et on a regardé la semaine dernière, essentiellement les deux premiers points dans l'introduction, puisque vous allez voir, ça change au chapitre 2, verset 5. On termine comme une section. On a vu l'avancement de Judas et Siméon ensemble, mais un échec déjà signalé à la fin. Et là, les autres tribus, finalement, on n'en parle pas. C'est un refrain un peu hasardeux qui est répété, un refrain tu restes collé avec, mais qui est désagréable, qui n'arrive pas à te sortir de la tête. Ils ne prirent pas possession. Ils ne prirent pas possession. Ils ne prirent pas possession. Vous voulez que je continue ou vous avez compris? Ça va? Fait que c'est un refrain plate qui revient tout au long de ces versets-là. Et on n'a pas lu les derniers versets de cette section-là qui se trouve à être au chapitre 2, versets 1 à 5. Parce qu'évidemment, rappelez-vous, hein, les chapitres, c'est pour nous aider à se retrouver. Ils ont été ajoutés, cette manière de mettre des chiffres pour se retrouver dans les paragraphes, les versets. Ça fait juste 600 ans, 500 ans que ça a été mis. Apparemment, c'était des paragraphes. Donc, c'est pas parfait, là, l'arrangement des chapitres. Là. Ça, c'est pas ça qui est inspiré, c'est le contenu. Fait que des fois, faut pas se limiter aux idées de chapitres et de versets, etc. Et là, on va regarder ce que l'Éternel reproche exactement à Israël pour ses échecs. C'est quoi qu'il va lui dire ici? Va être vraiment important pour comprendre le message. Mais juste avant qu'on lit ces versets-là, je vous mets en contexte. Okay? Le livre de Deutéronome, là, c'est le livre de formation que Dieu donne à Israël avant de rentrer dans la terre promise. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert, et juste à l'entrée, au moment où ce que Moïse va mourir, dans le un mois qui précède, c'est là que se compose le livre de Deutéronome, et c'est pour ça qu'on l'appelle Deutéronome. Deutéro, la deuxième loi. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Deuxième loi. Pourquoi? Ben, c'est pas une deuxième loi en réalité. On la raconte une deuxième fois à la nouvelle génération. Ce qui avait été écrit dans Exode, Lévitique, Nombre. Il récapitule pour les gens qui se préparent à traverser le Jourdain, pour leur donner la formation qu'ils ont besoin pour être équipés, prêts, tout frais dans leur esprit, pour traverser l'autre bord et savoir comment conquérir et vivre dans la terre promise que Dieu leur donne. Deutéronome, c'est sa fonction. Et dans Deutéronome, il donne une prescription importante en rentrant dans le pays, qui est Deutéronome 6, qu'on connaît assez bien, mais je vous résume le message en 4 points. Premièrement, il dit, vous devez aimer et obéir l'Éternel comme seul Dieu. C'est primordial. On retrouve ici, dans le fond, un commandement, le premier commandement, que l'Éternel soit notre priorité et aucun autre Dieu. Deuxièmement, il dit, vous allez enseigner vos enfants les lois de Dieu. C'est vraiment important. Il faut transmettre à la prochaine génération la connaissance de Dieu, le bagage de votre expérience avec Dieu, qu'il voit dans vos vies. Et quand vous allez voyager, avant de vous coucher, avant de manger, vous allez utiliser toutes les occasions pour leur transmettre la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Ensuite, il dit, vous allez aussi apprendre à cultiver dans votre cœur la reconnaissance. Partout, tout ce que vous faites, reconnaissez que c'est de Dieu que vous avez reçu tout cela. Cultivez votre esprit de reconnaissance parce qu'à un moment donné, on prend pour acquis, on devient confortable. On oublie que c'est pas moi qui ai mérité ça, que ce n'est toute pure grâce de Dieu. C'est spécial, hein? Oubliez pas qui remercier. Le mot magique, hein? Oh, j'ai pas entendu le mot magique. Hein? S'il vous plaît. Puis le mot magique à la fin, merci. Hein? Même nous autres, les adultes, avec Dieu, on a de la misère avec ça. Et finalement, se séparer des cultes des dieux païens dans le pays de Canaan. Ils sont avertis d'avance, tombez pas là-dedans, restez séparés de eux. Vous avez la connaissance du Créateur. Eux, ils adorent des statues qui ont pas de vie, c'est fou. Embarquez pas là-dedans. Je me débarrasse de eux pour vous faire de la place dans ce pays-là, parce que ça fait 1000 ans qu'ils sont là, puis ils se repentent pas. Fait que c'est à cause de ça que ça m'écœure leur vie et qu'ils vont être jugés pour ça. Allez pas prendre le mode de vie de ceux que je juge. Ça serait un peu fou. C'est les 4 prescriptions que Dieu donne. Mais force est de constater que malheureusement, la nouvelle génération a échoué dans chacune de ses responsabilités. Triste situation. Ils ne voulaient pas mettre leur cœur à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ils préféraient expérimenter l'inconnu. C'est fascinant, ces idoles, ces cultures, ces pratiques autour de leur Dieu et tout ce qu'ils font autour. Et en conséquence, Israël a plongé finalement dans un désastre moral, spirituel et politique. Deux choses l'une. Ou bien la vieille génération n'avait pas instruit leurs enfants et leurs petits-enfants dans les voies de l'Éternel, ou bien si elle l'avait fait fidèlement, la nouvelle génération avait refusé de se soumettre aux enseignements de la loi et de suivre les voies de l'Éternel. Le proverbe dit ceci, chapitre 14, 30, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. » Et le livre des Juges nous raconte justement cela. Maintenant, juste avant que je lis, j'aimerais juste faire un avertissement important. Si vous êtes comme moi, vous avez une grande peine dans vos cœurs, quand vous pensez à vos enfants et que vous savez que certains suivent le Seigneur, mais que d'autres aussi ne suivent pas le Seigneur. Et ça vous pèse. Et si ce matin, en écoutant ce message-là, vous vous sentez culpabilisé, j'aimerais vous dire ceci ce matin, ce n'est pas le but de nous culpabiliser. Le but est de nous encourager à persévérer dans ce que Dieu nous demande. Pas de se traîner la face dans la boîte. C'est l'ennemi qui fait ça. Qui veut juste nous mettre dans la honte, nous décourager, nous accabler, et que là, on reste pauvre de moi, on se flatte le nombril, puis on fait pas grand-chose. OK? La parole de Dieu veut nous encourager à se lever, à se relever. Pas de rester courbé, découragé, de se culpabiliser, de s'apitoyer, et finalement, de tout faire les choses qui vont nous empêcher d'avancer. Résistons à ça ensemble. Le Seigneur veut nous encourager positivement à quoi faire et pas désespérer, ne pas se décourager et que la génération a une responsabilité précédente et la génération actuelle a une responsabilité également de son choix. Et on ne peut pas forcer l'évangile dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. On ne peut pas travailler à les culpabiliser ou les assommer à coups de Bible pour avoir ce qu'on pense être meilleur pour eux. Ça ne fonctionne pas comme ça, le cœur humain. On est clair? Même au contraire, ça peut repousser. Ce n'est que pure grâce que je sois sauvé, que vous soyez sauvés. Un miracle de Dieu. Et pour chaque génération, c'est un miracle de Dieu. Ce n'est pas méritoire que la prochaine génération, même si elle a obéi. Le Seigneur Jésus a eu 12 disciples. Il a été un maître parfait. Amen. Il y en a un qui l'a rejeté, qui l'a trahi. Ah, peut-être Jésus a pas toutes fait les bonnes étapes de la formation de disciples. Jésus, tu devrais te réévaluer. Il y a peut-être des choses que tu as oubliées. Tu t'es pas assez ouvert. Tu les as pas assez invité souvent. Tu avais des préférés peut-être, mais Judas s'est senti, tu sais. C'est tout ça l'enjeu? Est-ce que c'est ça l'enjeu? Non. Ésaïe, chapitre 1. Le Seigneur dit, « Mes enfants m'ont abandonné. » Et il parle de la stupidité de son peuple qui se vire de bord contre son Père, son Créateur qui est l'Éternel. Est-ce que c'est l'Éternel qui avait manqué envers Israël? Est-ce que l'enjeu était la parentalité du peuple d'Israël? Une parentalité parfaite? Jamais il avait manqué à ses promesses. Toujours fidèle, toujours disponible. Il a tout mis la loi disponible pour les aider à réussir. Est-ce que c'est la paternité de l'Éternel qui est l'enjeu pour la rébellion d'Israël? Non. Chapitre 1 nous montre dans Ésaïe la raison et les choix d'Israël. Oh oui, c'est vrai. Certains vont me dire, Joël, oui, mais toi puis moi, on n'est pas des parents parfaits, contrairement à l'Éternel. Effectivement. C'est pour ça que tout à coup, nous, on s'en vire vers nous. Attention. Le salut de nos enfants, on a une part active à transmettre, à favoriser. Mais ils ont aussi un choix. Et on ne peut pas porter ce choix. Attention, de penser que le salut de nos enfants dépend de nous comme parents. Mais est-ce que Dieu veut nous accorder la grâce d'avoir une part? Oui. Est-ce qu'il dépend de nous pour le miracle du salut? Non. Et là, la ligne est mince entre les deux. « Ah, ben c'est ça, ben ça ne dérange pas de moi, pas moi, je me déresponsabilise. » Non, non, non plus, hein? La ligne est toujours mince et nous, on se polarise d'un bord comme de l'autre. La misère à marcher sur cette ligne mince de la foi, que Dieu est souverain, il y a quelque chose qui m'échappe complètement dans le salut de mes enfants et en même temps, il y a une part active que Dieu veut que j'aille dedans, mais il ne dépend pas de moi. Il me donne juste une opportunité, il n'a pas vraiment besoin de moi. Parce que c'est un miracle. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est vraiment important ce que je vous dis là, là. C'est ma lutte, c'est votre lutte, on doit en parler. Et en regardant ce chapitre-là, de transmettre à une génération autre, on a besoin de ce prélude-là, je pense, de se parler honnêtement et de remettre les choses au clair sur cette tension qui existe. Et ce que j'espère ce matin, en lisant la parole de Dieu, que Dieu va vous parler et il va vous encourager dans votre rôle. Qu'il va vous émerveiller encore une fois, dire, OK, ça veut dire qu'il faut que je redouble d'argent, pas de parler, de parler à Dieu. De prier, de l'écœurer, de cogner à sa porte jusqu'à mon dernier souffle, parce que j'espère en lui. Et pas d'écœurer les autres, parce que je veux forcer sur eux quelque chose, voyez? C'est toute la différence entre pas oublier ma responsabilité, mais que ça dépend pas de moi, ça dépend de lui. J'aimerais que vous gardiez cette idée-là en tête, en lisant ce qu'on lit ce matin. Le Seigneur veut te parler, il veut me parler, il veut nous encourager. Et s'il t'invite à la repentance dans un domaine, ne résiste pas ce matin. Prie le Seigneur tout de suite, puis s'il te montre quelque chose, demande-lui pardon, c'est tout. On avance, on reste pas là. Vous comprenez? Parce qu'on va voir des gens qui se sont culpabilisés ce matin, mais qui n'ont pas changé. Ça donne-tu quelque chose de brailler, de se culpabiliser, mais que ça ne produit pas du changement? Parlons-en ensemble. On va lire les 5 premiers versets. Juge, chapitre 2 et le verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Je vous ai fait monter hors de l'Égypte. Donc, il y a un envoyé de l'Éternel, ou peut-être vous avez la traduction « un ange de l'Éternel ». Et qui donne ce message de la part de Dieu. « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays pour renverser leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, dans votre flanc, et leurs dieux vous seront un piège. Et lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles, tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Et ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim. Et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen. Bien, un mini-sermon envoyé de l'Éternel. Vous avez remarqué? Et si vous prenez le temps de suivre le flow des paroles, vous allez remarquer qu'il va faire trois choses. C'est un ange de l'Éternel. Il va apparaître dans deux autres occasions, le chapitre 6, entre autres avec Gédéon, et dans une autre histoire. Des fois, c'est traduit messager de l'Éternel ou ange de l'Éternel. En fait, le mot messager, on le traduit ange. C'est selon le contexte, si c'est un messager ou si c'est un ange. Et dans ce cas-ci, il donne un sermon en trois grandes lignes. Il tourne dans le passé, puis il rappelait aux enfants d'Israël que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. C'est lui leur libérateur. Et régulièrement, au moins trois autres fois dans le livre, il va leur rappeler leur passé pour leur rappeler l'amour de Dieu envers eux. On a besoin de ne jamais oublier d'où on a été sorti et c'est qui nous a fait des promesses et c'est qui par sa force nous a sorti de notre merdier. Et il leur rappelle le passé. Ensuite, il leur dit au présent, c'est bien beau tout ça, j'ai fait une alliance, mais là, vous autres, vous avez des responsabilités dans le présent. C'est que j'ai fait une alliance avec vous, vous faites pas des alliances avec eux. Mais là, vous m'obéissez pas, vous faites des alliances avec eux. Mais pourquoi vous faites ça? Et c'est le genre de question que t'es pas supposé de répondre. C'est le genre de questions qu'un père, qu'une mère pose à son enfant, et le but n'est pas d'avoir une réponse, c'est de faire réfléchir. Mais pourquoi vous faites ça? Et le pourquoi, il t'aurait dit, c'est un peu fou. Ça a pas d'allure faire ça. Voyons. Ils exposent la folie de leur comportement, de mettre de côté cette alliance-là, que Dieu, lui, est fidèle, que Dieu lui tient. Et là, dans le futur, elle est dit, à cause de tout ça, voici ce qui explique ce qu'on vient de voir au chapitre précédent. Je vais les laisser là à cause de tout ça. Je vous donne les conséquences de vos choix. Et à cause de ça, je permets qu'ils soient là puis vont toujours être comme un épine dans votre chair. Moi, j'ai déjà eu un zona. On devrait pas l'avoir à mon âge. J'étais dans la vingtaine quand j'ai eu ça. Surmenage. Il est sorti avec une autre affaire. Puis, à un moment donné, j'avais des boutons dans le dos. Puis là, sur une côte, là. Et là, j'ai eu la côte de feu qui appelle, je pense, quelque chose comme ça. Hein? Ceinture de feu. Yeah. Le problème, c'est que ça me rendait pas plus vite. Ça faisait pas non plus héros ou rien de même. Ça faisait tout le temps mal sur le côté. Tous les nerfs étaient affectés. Puis j'avais toujours l'impression d'avoir eu une côte fêlée. Vous comprenez ce que je veux dire, ceux qui l'ont déjà eu? Pas agréable. Et tandis, je les laisse là, puis c'est comme si vous allez toujours avoir une pointe, une petite douleur, tout le temps en train de vous gosser après, qui vous lâchera pas. Partout où vous allez aller, vous allez jamais avoir la paix. Il utilise même le terme un piège, comme se faire pogner dans un piège d'oiseau, un piège à ours, un piège pour un animal quelconque. Vous allez faire pogner dans quelque chose, mais c'est votre choix. Fait qu'il y a comme, il y a une responsabilité, mais il y a aussi une conséquence que Dieu donne là-dedans. C'est comme les deux côtés qui sont là. Il les responsabilise, il leur avertit. C'est pour ça que vous allez avoir ça. Fait que là, on dit, ah, c'est pour ça qu'ils sont pognés avec ces gens-là qui devaient se battre, puis se débarrasser, mais qui l'ont pas fait, puis Dieu permet qu'ils s'aient pognés avec eux autres comme une conséquence. Ça répond pas tout. On se dit encore, mais je comprends pas tout. On va comprendre mieux à mesure qu'on avance dans le chapitre. Vous allez voir, ça va s'éclaircir cette semaine et la semaine prochaine sur cette manière de faire de l'Éternel et pourquoi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est leur réaction. Et là, tout à coup, on parle de l'endroit qui s'appelle Bokim. Mais là, on comprend finalement que cet endroit-là se fait nommer parce que c'est là qu'ils ont pleuré. Ça s'appelle Pleureur. Et là, à Gilgal, à quelque part dans un quartier de Gilgal, une petite montagne, je ne sais pas, un terre et un champ, ils ont appelé ce lieu-là Bokim, les pleureurs, parce que c'est là que le peuple a entendu le message. On ne sait pas comment qu'ils ont eu le message. C'était-tu un prophète qui a parlé? L'ange est venu, puis il a parlé audiblement pour que tout le monde entende. Il ne nous explique pas le comment. Il nous explique juste que c'était clair, le message. Et qu'il y a eu une réaction. On se dit, Dieu merci, il y a eu des pleurs. Ils ont réagi. Ils se sont lamentés, ils ont braillé. Mais au bout du compte, il n'y a pas eu de changement. Et ils ont aussi fait une autre chose, ils l'ont appelé Bokim. Et quand le peuple enseigne, il y a eu un autel qui a été construit là. Ils ont fait des sacrifices. Il y a quelque chose quand même qui s'est passé là. Il y a eu un certain regret, des offrandes à Dieu pour demander pardon. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais ça n'a pas abouti réellement vers un changement de cap de la part du peuple. On le voit dans les versets qui suivent. Ça devient évident. Mais il y a eu des pleurs. Vous savez, quand Paul parle d'une repentance à salut et d'une repentance, finalement, qui mène à la mort, il y en a qui se rappellent de ça? C'est dans Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 7 à 11. Vous pouvez l'écrire. Et c'est là qu'on voit la différence entre, il y a eu des pleurs, il y a eu du gémissement, il y a eu du « je me sens mal », mais finalement, je me suis replié sur moi-même. J'ai braillé sur moi-même des conséquences. Puis souvent, c'est ça aussi, on est plus frustré et déçu des conséquences qu'on vit, qu'on peut être déçu de nous-mêmes, et là, après ça, d'être déçu d'avoir péché contre Dieu. Et que là, si j'ai péché contre Dieu, ben Dieu m'invite à pas rester là, mais à lui demander pardon, à régler ça avec lui, me relever avec son aide, et de continuer à sa suite. Et là, se produit le changement s'il y a une réelle repentance. Et la repentance à salut, c'est celle qui amène vers un zèle, vers un déploiement, un désir, pas un apitoiement, à vouloir réparer. Et là, Paul donne toutes sortes de qualificatifs à exprimer c'est quoi une vraie repentance, de celle qui est une repentance émotionnelle, mais somme toute qui demeure superficielle. Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas réellement de profondeur, de changement de cœur, vous voyez? Il y a un apitoiement, une tristesse des conséquences, mais pas au point d'un changement et de s'être tourné vers Dieu dans la repentance pour qu'il amène du changement dans ma vie, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on voit ici. Et donc, il y a un mémorial, Bokim, qui veut dire lieu des pleurs, pour se rappeler cet événement-là historique, mais qui finalement ne mène pas vers un changement radical. Maintenant, on va lire les versets 6 à 10 ensemble d'un coup, puis après ça, on va en jaser. Parce que là, il y a du stock. Il y a de quoi réfléchir puis marcher dessus sur un os longtemps. Josué renvoya le peuple. Et là, c'est Josué là ici. Là. Fait que là, il fait un petit retour en arrière. C'est pour ça que j'ai mis Josué, chapitre 24, verset 29. Il parle ici de la fin de vie de Josué. Il fait une rétroaction sur ce qui s'est passé à la fin du livre. Il fait le pont entre les deux livres avant de décrire les juges. Et donc, c'est ça qu'on va décrire ici. Et là, des fois, c'est embêtant s'il est encore vivant quand il dit ça ou c'est après sa mort. Alors, il nous décrit un phénomène des entre-deux parce qu'évidemment, il n'est pas mort immédiatement. Ça a pris presque une trentaine d'années, après 25 ans, parce qu'il est rentré dans le pays. Il y a eu les combats de l'âge de 80 à 85 ans. Il est mort à 110 ans. Fait que ça vous laisse un 25 ans, plus les anciens qui ont vécu avec lui, qu'il connaissait. Donc, on peut prendre un autre 25 ans. Fait que peut-être une cinquantaine d'années, là, entre le moment qu'ils sont rentrés dans le pays et cette progressive déchéance qui s'est faite. Ça s'est pas fait en un an, là. OK? Pour aider à relativiser ici le temps. Donc, il renvoyait le peuple. Et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage. Donc, ils avaient fait les gros combats. Là, chacun s'en va dans son territoire pour prendre possession du pays. Notre fameux mot du chapitre précédent, là, 12 fois, là, pour prendre possession. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Ah, c'est bon ça. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les choses, les grandes choses que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Et Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qui avait eu en partage Timna-Eretz, dans les montagnes d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Et là, le verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Donc, ceux qui ont vécu dans la vie, qui ont fait des combats dans Josué et qui ont vécu pendant la, comme adultes dans la vie de, ces, de cet homme et des anciens. Ils sont tous partis. Donc, une cinquantaine d'années. Il se leva après eux une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel et ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Que le Seigneur puisse nous parler par sa parole ce matin. Beaucoup de choses dans ces quelques versets qu'on va méditer ensemble et je prends la peine de vraiment le mettre devant nous, ce verset en particulier que je vais laisser là quelques instants, ce dernier verset de la section, et aussi toute cette génération-là fut réunie auprès de ses pères et se leva une autre génération après eux qui ne connaissait pas l'Éternel et aussi les œuvres qu'il avait faites. Pourquoi alors la nouvelle génération suivait-elle pas l'Éternel si leur père avait suivi l'Éternel? Le premier problème souligné dans le chapitre 1 était que non seulement la génération de Josué avait manqué de foi en faisant des accords avec les peuples de Canaan, en n'allant pas posséder progressivement chaque ville, mais ils ont en plus manqué en ne communiquant pas leur foi, en tout cas une partie, l'histoire de la prochaine génération, comme nous invite à le faire Deutéronome. Il semble qu'il y a eu un défi de transmettre la foi. Cela est arrivé parce qu'ils se sont attachés au Dieu dans la vie de leur père déjà, qu'on a raconté dans le chapitre précédent, et qu'ils avaient vécu, et ce fut pour eux un piège par leur compromis. Ainsi, la nouvelle génération est née, qui en majorité n'ont pas été enseignés dans la grandeur de Dieu et toutes les œuvres et les prodiges qu'il avait fait pour son peuple, par amour pour son peuple et par fidélité des promesses qu'il avait données. Ainsi, ils ne voyaient plus les Cananéens comme un peuple ennemi, parce que si on lit les écrits du Pentateuque, c'est clair. Il explique pourquoi, et on va en lire un extrait tantôt, comme un peuple ennemi à éliminer le plus vite possible, mais plutôt des alliés à se faire tranquillement si on veut vivre en harmonie avec nos voisins. Mais c'est pas la même affaire que nos voisins ici. Le problème est littéralement décrit au verset 10, où il y avait une ignorance de la prochaine génération. Ils ne connaissaient pas. Il semble qu'il y a quelque chose qui n'a pas été transmis aussi. Il y avait une part dans l'autre génération qui nous est responsabilisée ici quand même. Par le verbe « connaître ». Et aussi au verset 7, « voir » au verset 7. Regardez au verset 7. Je vous retourne dans votre Bible. Regardez bien où ce qu'il dit. « Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, mais ils avaient... qui avaient vu toutes les choses. Eux autres, ils avaient vu. Les autres n'ont pas vu. Oui? Et ils n'ont pas non plus connu personnellement. Et donc, si l'auteur fait appel à des mots d'expérience, des mots expérientiels de leur relation avec Dieu, voir et connaître personnellement, expérimenter Dieu. Un auteur le résume ainsi. Il faut remarquer toutefois que le mot connaissance est traduit probablement le sens de reconnaître. Parce que ça dépend du contexte. Connaissance peut être utilisée pour parler d'intimité. J'ai connu ma femme et j'ai eu un enfant. Ça dépend du contexte. Un peu comme dans Proverbe qui dit de le reconnaître dans toutes ses voies. Proverbe chapitre 3, verset 6. L'incrédulité prenant ici le pas sur l'ignorance. Ça fait que c'est pas juste du manque de connaissance, mais ils ont pas aussi cru. Ils rejetèrent tout l'ensemble de la grâce de Dieu envers eux et leur responsabilité envers lui, ce qui aboutit aux pratiques idolâtres qui sont dénoncées ici. Un ancien professeur à la retraite maintenant, M. Hould, qui était professeur de l'hébreu et de l'Ancien Testament à Édimbourg, a écrit ceci et j'ai trouvé que c'était tellement un bon résumé de l'idée. Dieu est préoccupé par cette génération et la prochaine génération. Et il souligne ceci. Oh, excusez-moi, avant de lire ça, j'ai mis aussi un autre diapo. Excusez-moi. Avant de parler de ma citation, j'aimerais vous montrer dans les Écritures la préoccupation de Dieu pour la prochaine génération. Juste quelques versets brièvement, OK? Ésaïe, chapitre 53, qui nous parle de Jésus, n'est-ce pas, dit ceci. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, Il parle ici de la génération de ceux qui ont vu Jésus. Qui a cru? Hein, ce défi d'incrédulité de la génération présente n'est pas nouvelle au temps des juges. Elle est là à l'époque de Jésus, où ils voient Jésus sur la croix, ses disciples, ses miracles. Et pourtant encore le même défi. Qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Et pourtant cette génération-là, qui a cru? Le Seigneur est préoccupé de notre génération. Regardez ici Jérémie, chapitre 2. Homme de cette génération, de l'époque de Jérémie, qui était un temps très difficile, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épais ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? Ah oui, le Dieu liberté est encore un Dieu d'actualité à cette époque-là. On veut être libre de faire ta loi. Non, tu comprends pas. Si tu fais ma loi, tu vas devenir libre. Elle te rend libre, ma loi. Tu seras plus obligé de faire juste ce que je veux, mais ce que j'ai mis pour toi qui va te rendre heureux. Et cette génération-là, Jérémie, le même défi. La Bible dit souvent ceci. Dans l'invitation, et toi, l'Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Donc, j'ai lu, Dieu est là à toutes les générations comme créateur. Et a à cœur chaque génération. Elle est précieuse pour lui. Il désire cette transmission-là à chaque génération parce qu'il est le Dieu de toutes les générations. Et c'est pour ça, dans Joël, chapitre 1, verset 3, et là, j'ai pas choisi parce que c'était Joël, je vous l'assure, là. C'est vraiment un bon prophète, là, mais... C'est à cause de cette citation-là, on me l'a amené, là. C'est pas un chouchou de ma part, OK? Mais il dit, racontez à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui va suivre. Et je vous donne juste quelques exemples pour vous dire, Dieu aime chaque génération. Et il a à cœur chacune d'elles. Et la participation active de l'autre génération pour bénir l'autre génération. Il veut qu'on en fasse partie de cette boucle-là. Non que ça dépend de nous, mais il nous permet d'y être activement participant. C'est un cadeau qu'il nous offre. Tu as reçu, j'ai béni Abraham pour qu'il bénisse les autres. Tu as reçu de Dieu pour que tu bénisses les autres, les premiers étant dans ton foyer. Et donc, cette citation que je voulais vous mentionner et que je trouvais d'actualité. Ces quelques lignes permettent de brosser le portrait d'une époque qui ressemble beaucoup à l'Europe occidentale. Évidemment, ça a été écrit en 90. Il parle de l'Europe en étant lui-même européen. Notre période est souvent décrite comme post-chrétienne. Encore aujourd'hui, même une coche plus loin. Notre époque est post-chrétienne parce que la grande masse des gens n'a pas la moindre idée de ce dont ils ne font pas partie. La tradition chrétienne ne leur a pas, n'est pas du tout familière. L'époque qui a suivi Josué s'est pas contentée de ne pas connaître le Seigneur. Elle ne connaissait même pas sa réputation d'action décisive et bénéfique. Loin de connaître dans l'adoration, l'amour et l'obéissance, ils ne savent même pas qu'il existait. C'est devenu en quelque sorte un inconnu. La première génération connaissait Dieu et la puissance de ses œuvres. La deuxième génération connaissait Dieu, mais pas la puissance de ses œuvres, ne l'ayant pas vu. Et la troisième génération ne connaissait aucun des deux, tout simplement. Vous savez, ça me fait penser à notre histoire québécoise. Une petite anecdote pour vous aider à nous situer dans notre histoire à nous. Si vous retournez en arrière, la majorité d'entre nous avons un ancêtre qui est venu de la France, à quelque part, et qui a marié une fille de roi. Une de ses filles à qui le roi donnait un montant d'argent pour aller marier un homme au pays ici parce qu'il manquait de femmes. Ils sont des centaines à être venus. J'ai plusieurs filles de roi dans ma généalogie. Et souvent, j'ai lu ceci dans mes recherches généalogiques. Et on parle quand même de 9-10% des premiers arrivants qui étaient nominalement religieux, là, protestants environ. Pourtant, ce qu'on constate, c'est que la majorité d'entre eux étaient une troisième génération. On lit que leurs parents étaient dans un temple calviniste à La Rochelle en 1600, que leurs grands-parents étaient baptisés dans un temple calviniste, ça veut dire protestant de l'époque, une église évangélique. Mais ces jeunes filles-là, qui étaient souvent troisième, même des fois quatrième génération de parents protestants évangéliques de l'époque, étaient comme cette génération-là. Et ils arrivent ici, on n'a aucun fruit, aucun témoignage, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas du tout. Ils sont pognés dans un monde où c'est tous des catholiques. Ils se marient avec des catholiques. Ils viennent assimilés par les catholiques. Et finalement, pendant 200 ans, presque, jusqu'à temps qu'on arrive vers 1835, avec Madame Feller qui arrive et qui va commencer un mouvement de réveil, suite à un réveil en Suisse, il va y avoir pratiquement rien au niveau protestant francophone, je parle particulièrement. Cette troisième génération qui finalement est assimilée à son époque a été tout simplement engrangée dans ce monde perdu. Et je trouve qu'on a là un bel exemple de notre histoire de ce phénomène-là, pas si loin que ça, pas 3000 ans en arrière, mais juste il y a 300 puis 400 ans. Et si vous faites vos généalogies, vous allez trouver ce genre de phénomène-là. Je suis un passionné de la question. Et voici, entre autres, une des raisons, et qui se fait présentement dans notre société. Monsieur Warren Wiersbe souligne un livre que je trouve fort intéressant, qui est revenu à la mode dans les dernières quelques années. Vous allez comprendre pourquoi. Dans son roman populaire, Monsieur Wiersbe nous dit, 1984, Monsieur George Orwell, vous allez entendre parler de ce livre-là régulièrement, là, je lis des livres dans les dernières années, puis tout le monde parle du livre de George Orwell, parce qu'il a écrit un livre de fiction, mais dont les comportements dedans sont en train de se passer, en quelque sorte, un peu prémonitoire, même si on jouera pas avec l'idée de prémonitoire, mais il voyait ce qui s'en venait dans son livre. Et il écrit ceci, « Qui contrôle le passé, contrôle le futur. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. » C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a prise de contrôle du présent, Hitler et Staline, par exemple, ont réécrit l'histoire passée afin de pouvoir contrôler les événements du futur et la manière de penser des gens. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Combien il est important pour chaque nouvelle génération de reconnaître et d'apprécier les grands hommes et femmes qui ont aidé à construire et protéger leur nation. Il est inquiétant de voir les historiens révisionnistes discréditer les héros et héroïnes du passé et d'en faire presque des criminels. Donc, vous voyez qu'il y a un sujet dada lié aux États-Unis de l'actualité des dernières 30 ans. Mais ce que je veux de cette citation-là souligner, c'est cette idée-là que pour contrôler le présent et le message, on efface le passé. Vous avez remarqué, là, on est en train de réviser des livres, on n'a plus le droit de lire des livres, puis d'utiliser certains mots. Il y a des mots qui sont maintenant le mot en N, le mot en S, puis le mot en ça. Fait que là, on épure les choses, on peut pas appeler les mots comme ils sont. On a honte de certaines affaires dans le passé, on veut les occulter, on enlève des livres. Pourquoi? On essaie de revisiter puis de redéfinir le présent, c'est quoi nos valeurs, et on essaie d'effacer les affaires du passé qui nous dérangent. Le fait que notre pays, qui a été influencé par, évidemment, la politique anglaise d'un pays protestant, ah oh oui, défectueux à bien des égards, mais des valeurs chrétiennes protestantes, a influencé toutes nos lois. Nos lois dites civilisées et nord-américaines qui nous rendent fiers au Canada viennent de la base foi chrétienne. Que notre histoire vient de la foi chrétienne catholique. Oui, défaillante, mais ces valeurs judéo-chrétiennes ont influencé le pays qu'on est aujourd'hui, mais là, on en fait d'autres choses, et là, on a honte, et là, c'est sur le bord, où éventuellement, oui, effectivement, lire certains passages de la Bible va pouvoir devenir quelque chose que peut-être on va pouvoir nous actionner. D'oser lire certains passages qui seraient hostiles à certaines personnes, qui seraient choquants pour les contemporains, parce qu'on veut même plus engager même un dialogue de débat sur certaines valeurs morales. C'est comme ça, on va en parler dans un instant. Et les valeurs morales de notre société ont changé, et il faut le comprendre comme chrétien. C'est l'Évangile qui change les gens, et non de débattre avec eux, mais de comprendre pourquoi les gens sont là, plutôt que d'être choqués, et d'être capable d'argumenter ou de dialoguer avec eux, non en s'obstinant, mais en comprenant où sont nos auditeurs, où est notre culture aujourd'hui, pour pas être en train d'avoir des discussions comme ça. On se comprend pas. On est déconnecté de notre réalité, puis on parle, puis c'est bien au-dessus de la tête de tout le monde, parce qu'on ne comprend pas ce que les gens pensent, pourquoi ils pensent comme ça. Et on a besoin de comprendre pour leur parler. Parce que notre culture est activement en train de prendre des mesures pour éliminer les valeurs judéo-chrétiennes, qui sont hostiles aux valeurs actuelles que notre société sont en train de forcer dans la gorge de nos enfants à l'école, sans permission, sans gêne, à répétition. Et si nous, comme chrétiens, on se gêne de parler de Dieu, tout à coup qu'on soit accusé de brainwashing religieux, hein? Parce que évidemment, si l'école rentre des valeurs, c'est correct, mais si nous, comme parents, on veut transmettre des valeurs, on fait du brainwashing. Hein, c'est de l'abus spirituel. On force une fois sur nos enfants. Ben voyons donc. Hein, deux poids, deux mesures. Si un le fait, c'est correct, mais si l'autre le fait, c'est pas correct, ça. Parce que c'est pas en harmonie avec ce que nos valeurs contemporaines. Vous voyez la tension qu'on vit dedans? Et on a besoin de comprendre ça, ce phénomène-là, et de pouvoir s'équiper de mieux en mieux pour l'adresser. L'ennemi voulait, et regardez bien au verset, regardez au verset 7 du chapitre 3. La semaine prochaine, on va aller jusqu'au verset 6 du chapitre 3, mais j'aimerais vous montrer juste le premier verset d'un cycle des juges. Et regardez bien rapidement, on dit « Les fils d'Israël firent le mal dans les yeux de l'Éternel, et ils, disons-leur ça, et ils oublièrent. » Ils oublièrent l'Éternel. Ils l'ont oublié. Et notre génération fait tout pour se battre, pour éliminer la pensée de Dieu. Aujourd'hui, quand je fais des mariages, souvent, pour des jeunes à la vingtaine, c'est le premier mariage de leur vie qu'ils assistent. On voyait pas ça il y a 20 ans. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent me voir. Hey, il y a des gens qui viennent me voir. Là, c'était tellement beau. Hey, monsieur le pasteur, c'est la première fois que j'assiste à une célébration chrétienne, puis à un mariage tout court même. Là. Puis, wow! Ils sont déstabilisés. Ils savaient pas à quoi s'attendre. C'est leur première expérience. Puis ça m'arrive souvent. Entends-tu ce genre de commentaires? Parce qu'il y a une ignorance même de voir des gens s'engager dans le mariage. Et pas avec un petit engagement, tu sais, là, on en reparlera, là, des engagements qui deviennent de plus en plus superficiels, on va dire. L'ennemi voulait qu'ils oublient ce que Dieu avait fait en Égypte, oublient de raconter fidèlement à leurs enfants ce qu'ils avaient expérimenté, de raconter votre histoire de conversion jusqu'à toi, qu'ils soient tannés et qu'ils soient capables de le raconter eux-mêmes, vos enfants, de comment vous avez rencontré Dieu. C'est la même chose aujourd'hui avec la cancel culture, où on cancelle les choses, où le contrôle de l'information s'improvise de plus en plus fort, et même comme fait la Russie pour contrôler l'information. Là, c'est une guerre d'information en Europe. Hein? Là, les gens en Europe coupent certaines prises d'information qui sont très influencées russes, puis là, les Russes coupent les accès à des informations. On veut contrôler l'information pour contrôler la pensée des gens. Là, dans le but d'une guerre ici, mais vous comprenez l'idée, mais au niveau des morales, il y a un combat qui se passe même entre la Russie et l'Europe pour des bonnes et des mauvaises choses. C'est ici, en Amérique du Nord, comme partout ailleurs. J'aimerais, au cours des prochaines semaines, je vais vous partager, j'ai un prédicateur que j'ai apprécié dernièrement, que j'ai écouté prêcher à notre congrès pan-canadien. Une fois par année, on a un congrès national et de temps en temps, j'ai l'occasion d'y aller. Ça faisait 3 ans et j'ai pu y aller cette année. C'était Sam Albury. Il y en a qui connaissent Sam Albury, peut-être entendu le nom. Alors, Sam est un homme fort apprécié, c'est un ministre anglicain, un chrétien évangélique, solide. Il a un excellent livre que je suis en train de lire, qui est très intéressant, qui s'intitule « Est-ce que Dieu est homophobe? » Il est en français. Excellent petit livre. Vraiment, là, je suis en train de lire les derniers 6-7 pages. Là. C'est un petit livre de 90 pages à peu près. Il a écrit il y a plusieurs années, c'est un homme qui lutte avec l'attirance avec le même sexe. Il en parle ouvertement et il est pasteur, célibataire. Et il parle donc de toute cette dynamique-là, et il va aussi à travers les États-Unis inviter partout pour partager évidemment la parole de Jésus. Et je vous dirais que j'ai été tellement édifié de l'écouter me parler de Jésus. Ça a été 4 prédications merveilleuses. Et dans un de ses enseignements, il a pris la peine de nous sensibiliser comme culture nord-américaine, tout comme aussi en Angleterre, qui sont similaires au niveau des débats qu'on vit présentement de valeurs, sur 4 mutations qui se passent dans notre société, au niveau des valeurs de notre société, qu'il faut qu'on comprenne. Et je vais vous en partager un aujourd'hui, un la semaine prochaine, un après ça. Les 4, je vais vous les partager progressivement pour nous aider à comprendre comment pensent nos contemporains et c'est quoi qui a changé que je dois comprendre pour pas être en train de déphaser dans mes discussions avec nos contemporains. De comprendre la société. Pas de l'accepter puis donner mon béni-béni. De la comprendre. Tu peux pas influencer les gens autour de toi si tu les comprends pas. Si tu les as pas écoutés pour comprendre comment ils réfléchissent et que t'apprends pas à écouter en posant des questions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, mais c'est quoi qui te dérange, dans le fond, là-dedans? Et de poser des questions, de comprendre avant de parler, pour dire quelque chose qui va être pas comme ça, mais qui va être comme ça. Parce que j'aurais compris, écouter plutôt que juste vouloir tout imposer ma pensée à quelqu'un qui, lui, est complètement ailleurs dans ses valeurs. Vous me comprenez? Alors, je vous en partage un la semaine prochaine, et ainsi de suite, juste avant la conclusion. Et donc, ces quatre mutations, la première qu'il mentionne, notre intuition morale naturelle a changé. Avant ça, on avait une intuition morale qui avait une influence chrétienne. Mais cette intuition morale-là a complètement changé sur comment on évalue quelque chose qui est bien ou qui est mal. Sans s'en rendre compte, on se pose plus les mêmes questions. Notre société réévalue avec d'autres questions ce qui est bien, ce qui est mal. Pas en fonction de la Bible ou des valeurs judéo-chrétiennes. C'est plutôt, ben ouais, mais ce comportement-là, est-tu vraiment dangereux? Tu sais, ça va-tu faire du mal à quelqu'un autour? Ouais, tu sais, là, imposer mes valeurs, finalement, il fait pas du mal aux autres. C'est pas dangereux ce qu'il fait, là. Il met pas la vie à quelqu'un en danger, là. Faut pas exagérer. On se pose des questions comme ça à place. Plutôt que si c'est bien, c'est mal, sur quelle base? Est-ce que, s'il fait ce comportement-là, ça va-tu faire du bien, dans le fond? Ça va-tu être libérateur pour lui de sortir de ce qui vit à l'intérieur, qu'il a besoin de le dire devant tout le monde et de pouvoir le vivre, et que là, il va être libre? Tu sais, on est en train de brimer quelqu'un, finalement, là? C'est le genre de questions-là qu'on se pose. Est-ce que cela est juste et bien d'empêcher une personne de faire ça quand, dans le fond, il va se sentir juste mieux, plus épanoui, il se sentira plus coupable si on laisse avoir ce comportement-là? Qui sommes-nous pour brimer quelqu'un? Et ça semble même mal de les empêcher, certaines personnes, leur comportement. C'est logique pour eux. Le repère moral pour eux n'est pas le même du tout. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la Bible et ses enseignements. Nous devons comprendre leur logique morale et l'adresser avec les paroles de Jésus et de l'Évangile. Et j'ai aimé beaucoup l'entendre là-dessus, à dire, essayons pas juste d'avoir un débat. Parce que, à la fin ici, quand on arrive là, c'est tellement subjectif. C'est plus une question de qui a raison. C'est une question de à qui on donne une autorité d'être entendu. Lisons les paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a à dire sur la sexualité? Qu'est-ce que Jésus a à dire sur la guerre? Qu'est-ce que Jésus a à dire sur comment trouver la paix à l'intérieur? Qu'est-ce que Jésus a à dire sur la vie? Cette semaine, je parlais avec quelqu'un, puis j'ai quelques amis retraités que je jase souvent avec à l'UQTR quand je m'entraîne, et ils ont en moyenne 80 ans. Et on a des bonnes discussions, etc. Et il y en a un cette semaine qui parlait, il dit, ah, de toute façon, il dit, m'en aller dans le trou bientôt, là, fait qu'on s'en va dans le trou, puis tout le monde va dans le trou de toute façon, tu sais. Je dis, ah, ouais, OK. Puis il disait ça, tu sais, ben, ça te dérange pas de pas avoir plus d'espoir que ça, Marcel? Ben non, il dit, c'est normal, tout le monde va dans le trou. Puis tu sais, il y a rien, après, il y a quelqu'un qui est revenu de toute façon. Il fallait pas me poser ce genre de questions-là. Il fallait pas me dire ce genre de réponse-là. Est-ce quelqu'un qui va venir nous le dire? Ben, Coros, oui, j'ai quelqu'un à te parler. Oui, puis oui. Moi, je connais quelqu'un. C'est là, Jésus, lui. Puis j'ai dit, c'est drôle, il dit, il y a un de mes amis qui me parle, puis il dit, et de toute façon, il dit, il y a un de mes amis qui est revenu de l'enfer, puis il m'a dit, là, c'était le party là-bas. Fait que tu sais, ah, j'ai dit, c'est drôle, tu sais, Marcel. J'ai dit, je me rappelle d'une histoire de Jésus. Ça m'est venu spontanément. Puis Jésus raconte justement l'histoire de deux personnes qui se ramassent dans l'au-delà. Il y en a un qui est au ciel, il y en a un qui est justement en enfer. C'est drôle, hein? Le gars qui était en enfer, il est en train de parler comment trouver un moyen pour empêcher ses frères de venir là où ils étaient. Ça veut dire que c'était pas du tout le party. Oh, mais là, tu sais, Jésus, il dit, ouais, mais tu sais, cette histoire-là, puis change. Non, non, écoute, si tu veux en parler, justement, c'est intéressant que tu me parles de ça, parce que, justement, l'Évangile de Luc, on a des textes qui datent de 200 ans après Jésus-Christ. Fait que, tu sais, parce qu'il m'avait parlé de l'histoire de raconter, puis l'histoire change avec le temps, tu sais. On va pas être plus loin. J'ai dit, tu sais, si Jésus est ressuscité des morts, puis j'ai même pas été à la résurrection, j'ai juste été à défendre que le texte qu'il racontait là, qui était authentique, qui avait pas changé depuis 2000 ans. J'ai pas été poussé plus loin. Je pense qu'il y en avait qui écoutaient dans la rangée de l'autre bord aussi, mais j'essaie de faire attention, d'y aller un petit bouchon à la fois. Mais je me suis dit, si tu me dis ça, qui est venu de l'au-delà, je me dis, c'est une invitation, ça. En tout cas, c'est une provocation pour le moins. Faut saisir les balles au bon. J'avais jamais parlé de rien jusqu'à présent. Ils savent, ils sont respectueux, ils lancent des petites craques, des jokes, puis on en rit. Ils savent tout que j'enchaîne la parole de Dieu, puis je lis les Écritures dans la semaine à TVA. Ils en parlent entre eux autres. Tu sais, mais ça reste, ça fait plusieurs mois, des certaines années même. Mais voyez, nos contemporains, ils ont besoin d'entendre la voix de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a à dire là-dessus? pas pour se battre avec eux autres, pas pour leur forcer rien en gars. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et j'écoutais Sam parler, et je vous avoue que c'est la première fois que j'écoutais même un homme qui, alors que je l'écoutais parler, la douceur avec laquelle il communiquait m'édifiait, juste la manière dont il parlait avec douceur, avec respect. Pondéré. Pas intense comme Joël Lapierre. Doux. Pas parler vite comme moi non plus. Calme. Et je me disais, sais-tu quoi? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me dit, Jésus devait être comme ça. Spécial, hein? C'était la première fois que j'écoutais quelqu'un, je me dis, Jésus devait parler comme lui. C'est tellement édifiant d'écouter Sam parler. Un homme qui est plus jeune que moi, peut-être à peine un peu plus jeune. Mais quelle édification! Et je vous reviendrai avec d'autres aspects de cette moralité, justement. Mais ce repère moral n'est plus le même. Nous devons comprendre leur logique. Le mot « amour », par exemple, est redéfini aujourd'hui. Mais pourtant, la Bible nous dit « Dieu est amour ». C'est lui qui définit l'amour. Il a créé l'amour. Il est la définition même de l'amour. Et il éduque comment aimer d'une façon qui est souvent même insoupçonnable. Et que des hommes même peuvent avoir une relation d'amour de frère qui peut des fois même dépasser l'intimité entre un homme et une femme dans une amitié saine et vice-versa, d'un partage d'amour qui est sain, qui n'est pas sexuel, qui est vraiment une profondeur relationnelle. Comme Jonathan et David vivaient. Que certains ont dit, ah, il y avait une relation homosexuelle. Mais non, la Bible ne dit pas du tout ça. Il y avait juste une belle amitié entre deux hommes qui étaient profondes, qui étaient loyales, il y avait une admiration l'un pour l'autre, une loyauté, prête à risquer leur vie. Pourtant, c'était pas logique dans un cas comme dans l'autre. C'était risqué même. Et pourtant, il racontait l'histoire justement, et je vous le raconte, je vais parler de cette histoire avant de terminer avec une histoire en terminant. Deux histoires, OK? D'un couple, et c'est pas moi qui raconte l'histoire, c'est lui qui raconte cette histoire-là, d'un couple de deux femmes qui vivaient ensemble, qui avaient eu un enfant entre-temps. Et ces deux femmes-là, après 15 ans de relation ensemble, à un moment donné, ont commencé à venir à l'église et se sont converties, ont prié, accepté le Seigneur Jésus. Et le pasteur de cette petite congrégation-là, sachant pas non plus comment les accompagner, qu'est-ce que je vais faire pour les accompagner comme faut en faire des disciples de Jésus-Christ, il dit, écoutez, je sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse exactement, mais j'aimerais vous inviter à venir vivre chez nous. Ça va être compliqué un peu maintenant. Vous étiez en couple, il y a un enfant, c'est pas simple tout ça. Venez vivre chez nous, puis on va demander au Seigneur de nous accompagner, voir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Et en cours de route, bien, une des femmes a réalisé, les deux en sont venus à un commun accord, qu'à un moment donné, après un certain nombre de mois, il valait mieux pour elle de plus vivre sous le même toit. C'était trop difficile pour eux. Alors, il y a une autre famille chrétienne qui les a accueillis, qui accueille l'autre femme, qui restait pas loin de ce foyer-là pour qu'ils puissent se voir, parce qu'il y avait un enfant qui était là-dedans. C'est compliqué. Alors, ils ont cheminé ensemble encore. Puis, au bout d'un certain temps, ils ont réalisé, hey, ouais, là, on peut pas être deux mères pour un enfant. Il y a une mère, un enfant. Il faut choisir qui des deux va être une mère, qui va devenir sa matante. En quelque sorte, sa marraine. Wow! Oui, Joël, t'oses dire ça. C'est pas moi qui ose dire. Je vous raconte une histoire réelle. C'est tout. Et j'ai aimé comment l'Église a participé à aimer, pas à imposer sa foi. Que Dieu a montré son chemin et créé dans le cœur de ces femmes une clarté de ce que Dieu voulait pour eux. Et en cours de route, cette femme-là partageait à un moment donné avec Sam comment que aujourd'hui, elle dit, écoute, quand on était ensemble pendant 15 ans, on n'avait pas de chicane, on avait une belle relation d'amour, ça allait bien, on s'aimait, c'était super. Mais elle dit, depuis qu'on est sœurs dans la foi, notre relation a passé à une autre étape de profondeur. Qu'on vit maintenant comme sœurs dans la foi, plus amoureuses, mais comme sœurs dans la foi, une intimité plus grande qu'avant et plus profonde par notre foi qu'on partage. Wow, j'aurais jamais osé partager quelque chose de même. Mais c'était le témoignage qu'elle vivait. Dieu redéfinit le vrai sens de l'amour. Pas comme aujourd'hui. On va continuer de parler de ce sujet-là, entre autres, la semaine prochaine, parce qu'on va parler de sexualité et ce défi-là qu'il vivait en Israël. Mais j'aimerais terminer sur une histoire encourageante face à ce défi de la foi qu'on veut transmettre à la prochaine génération. Et vous racontez une vraie histoire d'un vrai père, de vrais frères qui ont vécu ensemble. Il y a de ça 250 ans et pourtant, ça pourrait être raconté aujourd'hui. Et c'est avec cette histoire-là que je vais conclure tout simplement naturellement. C'est l'histoire de John Cooper. Non, c'est pas ça que je veux. On le voit pas bien, hein? Oui, on le voit, c'est correct. L'histoire de John Cooper. Sa femme, lui, et sa femme Anne, ont eu 7 enfants. Mais seulement 2 d'entre eux ont survécu à l'enfance. On est dans les années 1700. William a survécu, 1731 qu'il est né, et son frère John, en 1737. Anne était très fragile, et au bout de ces 7 naissances-là, dont seulement 2 ont survécu, à la 7e naissance de John, 6 jours après la naissance, elle est décédée. Imaginez cet homme qui, après ces 7 grossesses, il y en a 2, et finalement, il perd sa femme. Leur père était recteur dans une ville de l'Angleterre, donc un dirigeant dans une église anglicane de l'époque, et la famille est profondément évangélique. Non seulement les 2 parents sont chrétiens, mais aussi de nombreux oncles, tantes, cousins, des garçons sont chrétiens. La seule faiblesse du révérend Dr. Cooper a transmis à son fils William, donc le plus vieux des 2, était sa lutte avec la dépression chronique qu'il luttait avec. En 1764, au cours d'une de ses hospitalisations, William, qui avait été converti grâce à un effort d'évangélisation de son médecin, le docteur Nathaniel Cotton. Vous voyez, le père, mais c'est un docteur qui a pris son lit dans la maladie, alors que celui-ci était dans la vingtaine, qui l'a amené, docteur Nathaniel Cotton. Peut-être on n'entendra jamais parler de ce nom-là autrement que par le fait qu'il a communiqué l'évangile dans un moment de vulnérabilité à cet homme-là sur un lit de maladie. Malgré son combat de toute une vie contre la maladie mentale de William, il est devenu l'un des plus grands poètes de l'Angleterre, rédigeant des hymnes chrétiens tels que « Oh for a closer walk with God » ou « There's a fountain filled with blood », des chants que les anglophones traditionnels connaissent bien. Son frère John, lui, en revanche, est resté incroyant. Même père, même famille, même transmission de foi, même réseau, 2 décisions distinctes. Lorsque John, le 2e frère, tombe malade en septembre de 1769, il a 32 ans, ses amis insistent pour que William, le grand frère, puisse venir le voir à Cambridge. Et au bout de 10 jours, l'état de John s'est amélioré et William est retourné chez lui et perplexe quant à la raison pour laquelle son frère avait refusé de prendre une décision. 10 jours avec lui, rien s'était passé. Puis au mois de février, donc 5 mois plus tard, on est en 1770, William est de nouveau reconvoqué en raison de la santé défaillante de son frère. John continue de souffrir énormément. Et puis, le 10 mars de 1770, lorsque William l'entend citer les mots, « Voici, je crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres », auxquels il ajoute, « Oui, il est capable de le faire ainsi. » Son frère lui dit ça. Et le jour suivant, William a écrit ceci à un chrétien dans une lettre, un compte-rendu de son expérience avec son frère. Et c'est là ici le clou de ce que je veux que vous entendiez. Écoutez bien les paroles de ce qu'il a expérimenté et ce qu'il a vu chez son frère. Il dit, « Je suis pressé de vous faire participer à ma joie. Hier, à l'après-midi, mon frère a soudainement éclaté en sanglots. Il a dit en poussant un grand cri, « Oh, ne m'abandonnez pas. » Je me suis rendu à son chevet et j'ai constaté qu'il était en prière. » À son chevet. Il le voit à l'entreprise. Puis, se tournant vers lui, il lui dit, « J'ai ressenti ce que je n'avais jamais ressenti auparavant, dit le frère. Je suis sûr que Dieu m'a visité avec cette maladie pour m'apprendre que j'étais trop fier pour apprendre ce que j'étais pas capable d'apprendre dans la santé. » C'est lui qui raconte ça. « Je n'ai jamais eu de satisfaction jusqu'à présent. Les doctrines auxquelles j'étais habitué me renvoyaient à moi-même. » Ces fausses doctrines, évidemment, fondées sur mon espérance. Et là, je ne trouvais rien en quoi m'appuyer. L'encre pure de l'âme faisait défaut. Je pensais que vous aviez tort et pourtant je voulais croire comme vous. Et là, je vous mets le reste de la citation dans la 2e partie ici. Je me suis trouvé incapable de croire. Mais j'ai toujours pensé qu'un jour je serais amené à le faire. Vous avez souffert plus que moi, en parlant à son frère qui avait souffert de maladie mentale à laquelle il lutte toute sa vie, avant de croire ces vérités. Mais nos souffrances, bien que différentes dans leur nature et leur mesure, étaient dirigées vers le même but. Ces choses étaient autrefois une folie pour moi. je ne pouvais pas les comprendre. Mais maintenant, j'ai un fondement solide et je suis satisfait, dit-il. Lorsque je suis allé lui souhaiter, le frère continue, la bonne nuit, il a repris son discours comme suit. Je vois le rocher de mon salut. J'ai la paix moi-même. Et si je vis, j'espère que ce sera pour être un messager de cette même promesse, cette même paix pour les autres. J'ai appris cela en un instant, ce que je n'aurais pas pu apprendre en lisant de nombreux livres pendant de nombreuses années. J'ai souvent étudié ces points. Je les ai étudiés avec une grande attention. Maintenant, ils me paraissent si clairs. Le mal dont je souffrais est la conséquence du mal descendant de la source originelle corrompue et de mes propres transgressions personnelles. Le bien dont je jouis m'est offert par le débordement de sa générosité. Mais la couronne de toutes ses miséricordes est qu'il m'a donné un sauveur. Et non seulement le sauveur de l'humanité, mais mon sauveur. Amen. Et l'auteur qui raconte cette histoire termine avec cette question. Connaissez-vous Jésus comme votre sauveur? De nombreuses personnes se disent chrétiennes parce qu'ils ont compris des choses sur Jésus ou sur la foi chrétienne. Pourtant, la seule façon de devenir chrétien est de faire confiance à Christ personnellement. Assurez-vous de lui faire confiance en tant que votre sauveur afin de pouvoir connaître la même joie que connut John Cooper après 32 ans à se battre contre la foi en Dieu. Il a soumis sa vie et là, il a connu la satisfaction. Continuons de prier, à se battre dans la prière pour ceux que nous espérons puissent connaître. N'abandonnons pas, et comme un homme sage est venu dire ici, à ce même endroit, du haut de ses 90 ans, M. Jacques Alexander, la fin de l'histoire n'est pas encore écrite pour nous. Continuons à demander à Dieu et à s'attendre à lui. Amen. Prions ensemble. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne de l'espoir. Merci pour ta parole qui nous corrige et qui nous invite à prendre une décision d'avancer dans l'obéissance par la foi de ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur, tout en nous, tous les fibres de notre être déchu. Veut se battre pour faire comme je veux, veut se battre pour être autonome, pour en faire à ma tête, pour ne pas me laisser diriger par quelqu'un, pour être capable de gagner toute seule. Tout en moi, Seigneur, résiste. J'ai besoin de ce miracle, Seigneur, dans mon cœur. Non seulement pour la conversion, pour me soumettre à toi, mais pour continuer chaque jour, Seigneur, à m'abandonner à toi par la foi. Pour vivre la bénédiction que tu as pour nous. Ah, cette bénédiction ne veut pas dire que tout à coup, la lutte que cet homme a eue avec la maladie, la santé mentale, est toute partie, mais il a trouvé la victoire au quotidien avec toi. De pouvoir continuer avec cette épine dans sa côte qu'il devait se battre avec. Et pourtant, à travers cette vulnérabilité, dans sa détresse, à se battre avec toi tous les jours pour maintenir la victoire, à posséder ce terrain, Seigneur. Tu lui as donné un homme qui a influencé sa génération par les chants, qui chante encore jusqu'à aujourd'hui, qui a été là sur le chevet de son frère mourant, qui est mort 10 jours plus tard, mais qui enfin connaissait l'Évangile. Quel encouragement, Seigneur! Quel encouragement pour nous de continuer de te faire confiance, de pourchasser ce terrain, Seigneur, que nous désirons soit possédé par toi pour ta gloire, Seigneur. Donne-nous cette audace dans nos vies privées, dans notre vie familiale, au travail, Seigneur, comme église, dans notre ville, qu'on puisse prendre possession de ces terrains que tu veux qu'on prenne possession par la foi pour l'Évangile, pour rejoindre cette ville, pour bénir cette ville et de ne pas avoir froid aux yeux, Seigneur, d'être audacieux pour toi. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.